RMC GG 2022.
Votre voix compte.
Le journal du off, les indiscrets des coulisses de la politique avec Jérémy Trottin, le chef du service politique d'RMC. Ce qui fait réagir aujourd'hui, Jérémy, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est encore l'intervention du chef de l'État qui, visiblement, n'aura pas été tout à fait comprise.
Oui, et on va réécouter le président, c'est important parce que, visiblement, comme tu le dis Alain, nous n'aurions pas tous entendu la même chose.
Et vendredi, je vous représenterai au Conseil européen, où nous allons examiner en particulier la question décisive de la candidature à l'adhésion de l'Ukraine à notre Union européenne et du contexte géopolitique. Dès mon retour, à la lumière des premiers choix, des premières expressions des groupes politiques de notre Assemblée nationale, nous commencerons à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle.
Alors immédiatement hier, les oppositions sont montées au créneau, c'est trop facile, ils nous posent un ultimatum pour nous faire ensuite porter la responsabilité, explique un cadre des Républicains. Une fois de plus, ce n'est pas clair, on avance dans le brouillard, appuie un député socialiste, c'était un ultimatum. Le message qu'il envoie aux Français, c'est le seul responsable de vos malheurs, ce sont les partis, souffle un autre parlementaire de l'opposition. En bref, une volée de bois vert et une fin de non-recevoir de la quasi-totalité des formations politiques. Mais attention, attendez, car visiblement, il ne s'agissait pas, mais alors pas du tout d'un ultimatum. Précision apportée ce matin par la porte-parole Olivia Grégoire.
Ni ultimatum, ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ses mots sont précis, à son retour du Conseil européen, effectivement dans 48 heures demain soir. Nous commencerons à bâtir. C'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum, c'est la fin. Là, il ouvre le début.
Donc voilà, personne n'a donc compris. Une fois de plus, le président et les partis auront donc un petit peu plus de temps pour dire ce sur quoi ils sont prêts à avancer. En tout cas, le calendrier s'est complètement détendu depuis hier. Le discours de politique générale de la première ministre attendu autour du 5 juillet pourrait intervenir que la semaine suivante. Donc voilà, finalement, on a un petit peu plus de temps que 48 heures.
Mais c'est pas la première fois qu'on comprend pas ce que le président,
mais Macron,
Thomas...
Macron a une pensée trop complexe. On nous l'avait dit, hein, trop complexe pour nous. Donc,
et d'ailleurs, on a besoin,
pas.
Olivier Grégoire a besoin de faire finalement le
voilà,
décryptage de la
traduction d'un discours de 8 minutes.
Ça dit bien ce que ça veut dire. Si à mon retour, nous commencerons à bâtir, ça veut dire qu'à mon retour, tout sera prêt et puis on commence à travailler. Donc ça, vous avez 48 heures pour. Ouais. Quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend, Kevin.
Moi, j'avais un peu saisi ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et là, j'écoute Olivier Grégoire, je comprends encore moins, en fait. Et d'ailleurs, cette femme, je ne comprends pas ce qu'elle fait à ce boss. Plus elle parle, moins on a envie de soutenir Macron et moins
absolument.
On comprend ce qu'ils veulent faire.
Ah bon,
c'est incroyable.
Là,
rendez-nous Gabriel Attal.
Alors, on va faire une pétition parce que c'est exactement ce que je voulais dire.
Gabriel Attal.
On regrette. Mais du premier jour où elle a parlé, j'ai regretté. Ah, mais oui.
Elle est
clivante, en fait. Elle est très, très
vulgaire et clivante.
Moi, je ne dirais pas qu'elle est vulgaire. Hein. Mais par contre, elle est très clivante. Elle est très brutale dans ses prises de position. Et vraiment, Gabriel Attal avait cette rondeur, cette c'est intelligence ça. Et effectivement cette courtoisie qu'elle n'a pas.
Ouais, elle est plus rentre dedans.
Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'au lendemain d'un discours très important, oui, la porte-parole soit obligée derrière de faire l'explication de texte.
Bon signe.
Mais, alors, est-ce que c'est parce que les réactions politiques ont été trop vives et que les portes se sont fermées trop rapidement, ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été clair? En tout cas, il y a un vrai souci dans la communication du chef de l'État, parce qu'en effet, un discours de 8 minutes, il est lu, relu, corrigé, relu, et normalement, il ne devrait pas laisser prêter à interprétation.
Et il y a un nom qui n'a pas été prononcé hier par le président de la République, c'est celui de la première ministre, Madame Borne.
Oui, et c'était d'ailleurs l'une des premières réactions des oppositions hier. On dirait qu'Elisabeth Borne est portée à disparue, nous disait un député insoumis. En effet, son nom n'a pas été cité, de quoi faire dire à certains stratèges du Rassemblement National que le président n'a pas compris que le régime avait changé. Macron reste encore ministre de tout. S'il avait été président sous la 5e, il aurait dit « Je vais nommer un premier ministre qui va trouver une majorité », mais la Borne a complètement disparu des radars. En réalité, le sort d'Elisabeth Borne dépendra surtout de la sortie de crise. Soit la première ministre sera priée de laisser sa place au profit d'un accord de coalition, ce qui est très peu probable, on le voit bien, soit elle devra trouver, comme elle l'a déjà exprimé, des majorités d'action sur chaque texte pour pouvoir continuer à gouverner et faire passer certaines réformes. Alors bien sûr, ce sera plus facile sur le pouvoir d'achat que sur les retraites.
Bon, en même temps, moi, je me souviens des autres discours de Macron, il a rarement cité le nom de son premier ministre, aussi bien Édouard Philippe que Jean Castex.
Politique. Là, ça aurait pu être un signe politique. La remettre, enfin, citer son nom dans ce discours-là était une façon de dire qu'il lui portait aussi déjà son soutien, mais aussi peut-être la responsabilité de mener justement ces discussions. Mais là, il ne l'a pas donné.
Je suis d'accord. En plus, la Ve République, celle ou celui qui gère l'Assemblée et la majorité, c'est le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre, c'est pas le rôle du président. Donc, effectivement, c'est à Madame Borne de gérer le foutoir de l'Assemblée.
Donc, ça laisse imaginer qu'il puisse nommer un autre Premier ministre dans les prochains jours. Enfin, si c'est pas le cas, il aurait pu insister sur le rôle de.
Pourquoi j'y crois pas? Parce que ce serait un aveu de faiblesse, un trop gros. Et la composition psychologique de Macron est pas comme ça. Là, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'il a perdu, qu'il recule. Il veut pas reculer. Non, il va même la garder plus longtemps pour dire je ne recule pas.
Oui.
Et puis, les premiers ministres n'ont pas eu des grands rôles sous Macron. Tout se passe à l'Élysée.
Sauf que là, maintenant, tout va se passer à l'Assemblée.
Oui, mais justement, en fait, ce qu'il dit hier, c'est entre l'Assemblée et moi, quoi.
C'est pas les institutions.
Non, c'est pas les institutions. Et c'est ça qui est bizarre. La traduction de Saint-Esprit, ça me rappelle exactement, c'est qu'ils viennent me chercher. Tu vois. Et là, en fait, ce que tu entends hier, c'est je court-circuite Madame Borne. Quand je rentre, tu dis au parti d'opposition, donc à l'Assemblée nationale, la feuille de route est prête. C'est moi. Oui, bien sûr, c'est lui qui les a reçus.
Ça aurait dû être Madame Borne.
Exactement. C'est presque un défi. C'est j'enclenche le match entre l'Assemblée. Et moi, entre le président et le palais Bourbon.
Parce que par exemple, le discours de politique générale, c'est pas Macron qui va le prononcer, c'est Madame Borne. Elle qui peut-être aura une motion de censure.
À moins qu'il aille faire un discours au Congrès, c'est lui qui fera son discours devant l'ensemble des.
Oui, mais au Congrès, il fait son discours et puis il s'en va, donc c'est pas la même chose. Hein.
Et pour finir, Jérémy, du coup, la majorité s'est choisie une dissidente pour l'élection du ou de la future présidente de l'Assemblée nationale, le perchoir.
C'est presque inaperçu. Hier, elle n'était pas le choix de l'Élysée et de Matignon, et pourtant c'est bien elle, Yaël Braun-Pivet, qui a été choisie comme candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale. Une première victoire donc cette fois pour les parlementaires macronistes, qui va à l'encontre des plans de l'exécutif. On avait posé deux conditions: un duo paritaire avec la présidence du groupe et un seul représentant d'Île-de-France, indiquait hier un pilier de la majorité. Pas de bol, avec Aurore Berger élue hier à la tête du groupe parlementaire. Les députés de Renaissance ont choisi deux femmes pour les représenter, deux femmes députées d'Île-de-France et même des Yvelines. Yaël Braun-Pivet qui avait également enfreint une règle, règle qui avait été non dite mais fixée malgré tout, pas de ministre candidat pour être présidente de l'Assemblée nationale. En tout cas, elle devrait devoir quitter le gouvernement la semaine prochaine parce que son élection est plus que probable.
C'est intéressant. On voit bien que Macron, quand même, il a moins la main. Hein. Il a beau vouloir s'occuper de tout encore. Là, il a pas eu. Ce même Aurore Berger, je suis pas sûr que c'était sa candidate, Aurore Berger.
A priori, le duo qui était candidat, les candidats de l'exécutif, c'était Ronan Lescure et Aurore Berger.
Alors, tu as remarqué qu'il n'y a que des femmes maintenant. En Macronie, on se plaignait du manque de femmes. Maintenant, les femmes prennent le pouvoir. Il y a Borne.
Ça, c'est plutôt ce qui est bien dans cette crise-là. Non, mais ça permet de faire émerger.
Oui, mais tu remarqueras que quand c'est la crise, on nomme des femmes.
Là, elle a été élue.
Oui.
Marianne, faut-il y voir aujourd'hui la revanche?
Autant j'ai du mal avec Aurore Berger, autant je n'ai rien à reprocher à Yaël Braun-Pivet. Parce qu'Aurore Berger...
C'est la première femme au perchoir, ça.
Mais Aurore Berger, vous avez vu d'où elle vient, elle a été filloniste, elle a été...
Il y en a beaucoup chez Macron.
Qu'on ne vienne pas me dire que c'est un parti de gauche.
Ah bah non, chez Macron, il y a
non, mais ni du centre, c'est un parti ouvertement de droite, avec Aurore Berger qui vient de Fillon, donc c'est vraiment la droite.
Et Attal qui vient du PS,
aussi vient du PS.
Ce grand écart, moi, me sidérera toujours.
Ah ben moi aussi.
Merci Monsieur Jérémy Trottin, merci pour toutes ces petits indiscrets. On passe au quiz des GG.
En direct du plateau 1 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Qui a dit « Le statut de la poitrine des femmes est encore flou en France, la montrée pour une femme c'est de l'exhibition sexuelle, pour un homme ça ne l'est pas ».
Je sais pas, mais c'est très juste. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est très juste. C'est tout à fait juste.
C'est un maire.
Un maire,
Piolle. Montagne.
Éric Piolle. Mais il a raison. Il a raison. Maire de Grenoble, il était invité chez Apolline Matin. Il a raison.
Pour réfléchir au statut de la poitrine des femmes maintenant.
Bien sûr qu'il a raison. Il y a eu tout ce problème avec les Femmes, justement. Et finalement, aujourd'hui, on leur donne raison parce qu'on dit que c'est une. En fait, ils ont détourné les juges en disant que c'est dans le cadre de la liberté d'expression, ils ont le droit de se montrer torse nu. Mais moi, je trouve ça absolument incroyable qu'une femme, en fait, on va sexualiser, c'est ça, alors qu'un homme qui se promène au bord des plages, enfin, excusez-moi, mais on doit, des promenades, on doit supporter les mecs torse nu.
Là où il a raison, c'est qu'on sexualise aussi les seins en fonction de la taille. C'est-à-dire que vous mettez un débardeur, son soutien-gorge, vous n'avez pas une grosse poitrine. Bon, vous avez une grosse poitrine, alors ça devient très grave, ça devient.
Je rappelle que les seins, c'est un organe qui est pour l'allaitement. Donc voilà, je rappelle ça.
Il y a une différence avec l'homme, donc tu vois, on peut pas faire la même comparaison avec les hommes.
Eh ben oui, mais c'est pas sexuel. C'est absurde. Hein. C'est pas sexuel. D'accord, justement, quand on va empêcher une femme d'allaiter au Louvre, c'est un scandale parce qu'en fait, la première fonction du sein, c'est d'allaiter.
Ouais. Il faut réfléchir à un statut de la poitrine des femmes, monsieur Kevin Bossuet.
Franchement, j'en ai rien à cirer. Je pense qu'on est dans une époque où on se pose de mauvaises questions et on ne se pose plus les bonnes questions. Ouais. Et Éric Piolle, pour moi, ne sert à rien. Il n'est là que pour exister médiatiquement. Mais qu'il se taise.
La suite.
Les GG, qui s'est fait radier de la piscine où il était abonné?
Éric Zemmour.
Bravo, Marianne. Éric Zemmour, info du canard enchaîné. Je vous raconte l'histoire. La piscine du Ritz à Paris, où Éric Zemmour avait ses habitudes depuis 2 ans, a refusé de reconduire son abonnement à la suite d'une altercation avec une cliente américaine. Pourquoi? Éric Zemmour aurait emprunté. Non, la cliente américaine.
Nageait dans sa ligne.
Exactement, nageait dans la ligne d'eau d'Éric Zemmour. Du coup, grosse altercation.
Ça fait 2 fois. Hein.
Alors, d'autres clients se seraient aussi plaints du comportement d'Éric Zemmour à la piscine.
Non, ça fait 2 fois qu'il se fait exclure d'une piscine. Il s'est fait exclure du cercle interallié aussi. Parce qu'il tenait des meetings politiques dans les vestiaires et les gens lui ont dit que ça se faisait.
Donc.
Peignoir claquette.
Vas-y. Ouais.
C'est quoi Attends, au Ritz, c'est 7000 euros l'année.
7000 euros d'abonnement par an pour la piscine. Ouais, ça sera une économie. Ouais.
Et on rappelle que pendant la campagne, il a dit qu'il nageait tous les jours dans une piscine municipale.
Exactement.
Voilà, donc pipotage.
Tiens, les GG, un sondage vient de paraître, celui des motifs de rupture en 2022.
Ah oui.
Quel est le principal motif de rupture selon vous? Alors, je précise, on parle de jeunes couples, pas de couples très avancés qui sont ensemble depuis des années.
Un like sur les réseaux sociaux.
Alors, non. Ça peut exister, mais c'est pas dans la majorité des cas. C'est assez surprenant, la première. Pour 80% des cas, quel est le premier?
C'est la petite thèse du logement, non?
L'hygiène.
Ah bah oui, mais d'ailleurs, quand même, tu te mets en couple avec quelqu'un de crado, en fait.
C'est pour ça que je précise qu'il s'agit de jeunes couples. 80% derrière l'hygiène, on retrouve quoi?
L'infidélité.
Non.
Ah bon?
Non, les commentaires blessants, répétitifs du conjoint.
Ah, mais c'est le dénigrement, c'est pas bien.
75% des ruptures. Sans surprise, en troisième position, c'est le manque d'intérêt pour la vie de l'autre qui est ressorti.
Donc 60%. La fidélité n'est pas importante, en fait, chez les jeunes. Ça, c'est pas mal, ça.
On parle de jeunes couples qui ne sont pas ensemble, qui ne sont pas ensemble depuis très très longtemps.
Oui, ils ont pas le temps de se tromper.
Voilà. Et puis l'absence d'humour.
L'absence d'humour.
En fait, l'hygiène, c'est la salle de bain, à mon avis, c'est les toilettes.
Oh là là, oui, ça,
et je dois, et à mon avis, ça retombe essentiellement sur les garçons, à mon avis.
Moi, j'ai cette chance-là, ça m'est jamais arrivé, tant mieux pour moi.
Non, mais parce que si on vit dans des endroits de plus en plus petits, donc dans des endroits clos, c'est très difficile d'avoir une intimité, etc. Et on voit tout de suite quand il y a un effet, vous laissez traîner des cheveux dans un 200 mètres carrés, vous les voyez moins que dans 20 mètres carrés.
Non, c'est uniquement le problème des cheveux.
Non, mais d'accord, mais si
c'est un exemple que j'ai pris pour parler d'autre chose.
Non, il faut garder son intimité.
Les GG. De toute façon, bref. Les GG, l'INSEE a publié les prénoms les plus donnés en 2021. Les prénoms courts ont toujours la cote chez les parents. Jade, Emma, Rose, Anna pour les filles, Léo, Noah, Adam et Hugo pour les garçons. Alors il y a beaucoup de parents qui regrettent le prénom qu'ils ont donné à leurs enfants.
Ah bon,
dingue. Vous, c'est le cas ou pas?
Non, pas du tout.
Moi, j'aurais pas dû appeler mon fils Saddam.
Il y a un petit module sur le site de BFM TV.
C'est une vanne.
Écoutez, j'ai le petit module sur le site de BFM qui permet de savoir combien de fois votre prénom a été donné en 2021 pour savoir si votre prénom est ringard ou encore populaire.
J'ai fait pour le mien j'étais hyper étonnée. Il y en a eu 6.
Et il y a eu 6 Marianne en 2021
qui ont appelé leurs enfants Marianne.
Marianne avec ton orthographe, Marie Trédunion, Anne, Thomas. Tu penses que ton prénom est populaire encore ou pas?
Oui, il est
trop populaire. 820 petits Thomas sont nés en 2021, c'est beaucoup. Ouais. Kevin, 136.
Bon courage.
C'est pas mal. Ouais. Alors Alain, ça m'a étonné.
Zéro.
Mais non, eh ben non, figure-toi, 27 petits garçons prénommés Alain.
Ah tiens.
Ah ouais.
Pas pourquoi.
Un petit bébé.
Alain, on n'en voit pas beaucoup. Olivier, Alain.
Olivier, 68.
Donc c'est moi qui ai le plus de Thomas.
Ouais. Mais Thomas, c'est
la cote classique.
Oui, c'est classique.
Thomas, la cote.
Et Anaïs.
56.
Ah oui.
Dans un instant, merci Anaïs. Dans un instant, GG7 et match, un ministre RN dans un gouvernement. Est-ce que ce serait choquant? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.